Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Bergoglio est mort et enterré. Non, je ne vais pas vous dire Alléluia, réjouissons-nous. Contrairement, malheureusement, à ce que font certains. C'est à la fois indécent par ces moments, en raison de ces moments de deuil, et c'est indécent parce que ça ne correspond pas à une attitude chrétienne. Vous attendez forcément que je parle de cette actualité, c'est tout à fait légitime, et je pense que ça fait partie de mon devoir de vous rappeler l'attitude chrétienne dans ces moments-là. Je viens de vous le dire, la première attitude chrétienne, c'est qu'on ne peut pas se réjouir en tant que tel. D'abord parce que la mort de quelqu'un représente le jugement de Dieu pour cette âme. Et c'est un moment grave. Et ce jugement de Dieu, on ne peut souhaiter à personne qu'il se finisse mal. Il faut se rappeler cette réalité. Ce qui signifie qu'on doit prier pour le repos de l'âme de Monsieur Bergoglio, en tant que chrétien. Cela signifie aussi que, dans ces moments, et d'ailleurs de manière habituelle, on doit faire preuve de retenue. Retenue dans les paroles, retenue dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale, puisque certains tiennent des sites Internet, tout ça, et non pas seulement des réseaux sociaux, et se permettent sur ces sites Internet eh bien de parler d'une manière qui n'est pas chrétienne dans ces moments graves que nous traversons aujourd'hui. Je vous rappelle que tout ce qui est de l'ordre des caricatures, de l'irrespect, etc., facilité encore aujourd'hui par cette invention de l'intelligence artificielle et des générations d'images de manière artificielle, on peut faire des merveilleuses choses avec l'intelligence artificielle. On peut être plus efficace au quotidien avec l'intelligence artificielle. On peut créer des œuvres belles artistiquement avec l'intelligence artificielle. Donc surtout pour ceux qui n'ont pas une main qui soit artistique, mais qui ont quand même des idées artistiques. Et il y en a. Après, dans la majeure partie des cas, effectivement, c'est utilisé d'une manière facétieuse, plutôt plus, donc facétieuse, ça peut rester correct et amusant, mais souvent, malheureusement, irrespectueuse. Donc on a vu un tas, à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur, de ses fêtes de Pâques, etc., il y a beaucoup d'images produites qui sont totalement irrespectueuses pour notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, voire blasphématoires. Pour revenir à Bergoglio, il y en a qui trouvent amusant de diffuser sur leur réseau soi-disant chrétien des selfies de Bergoglio avec le diable. C'est pas chrétien. Ça fait rire certains, mais ça me fait pas rire. Et ça ne doit pas faire rire les chrétiens. On ne souhaite à personne de finir en enfer. C'est la première chose que je voulais dire. Donc on prie pour le salut de son âme. Prier, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire oublier ce qu'il a fait, l'essentiel de son pontificat. Ça ne veut pas dire être dupe par rapport au jugement de Dieu sur Monsieur Bergoglio. Nous ne savons pas comment il a fini dans ses derniers instants. Nous ne savons pas effectivement ce qu'il a pu regretter devant Dieu avant de paraître à son jugement. Bien sûr, vu que tout ce qu'il a fait était public et gravement nocif à la Sainte Église catholique, à la foi, à la morale, dans les âmes, il avait une responsabilité de réparer publiquement tout cela. Cependant, il est possible de se convertir et malheureusement de n'avoir pas le temps de le faire publiquement. Je ne fais pas de scénarii, je n'invente pas. Simplement, je laisse cette option ouverte d'une possible conversion. Je ne vais pas chercher d'informations là-dessus. Tout et son contraire sera dit d'une manière ou d'une autre, ce qui a été le cas et ce qui est encore le cas même pour de nombreux personnages historiques pour lesquels on aime croire à une conversion ou autre, in finem. Donc, on ne fait pas, on n'invente rien par rapport à ça. Tout ce qu'on va regarder, effectivement, c'est l'héritage qu'il va laisser. Dans l'autre sens, bien entendu, maintenant il est quasi déjà canonisé. Hein. Pour ceux qui ont un peu regardé quelques images avec commentaires sur les différentes chaînes de télé, c'est effrayant maintenant. À peine quelqu'un est mort, on le canonise. On ne fait pas des messes pour prier pour l'âme des défunts. On fait des messes en hommage maintenant. Ça n'a aucun sens, une messe en hommage de quelqu'un qui vient de mourir. Aucun. C'est pas catholique. C'est de la laïcisation, de la désacralisation de la notion même de sainte messe, qui est un sacrifice qui est offert à Dieu seul. Je dis bien à Dieu seul. Et qui peut être offert en l'honneur, je dis bien, des saints, de la très sainte Vierge Marie et des saints. Mais après, pour les autres, pour les vivants et les défunts, ce ne sont pas des messes en hommage, ce sont des messes pour le repos de leur âme, pour les défunts. La messe, ce n'est pas un hommage à quelqu'un qui vient de mourir. C'est pas possible ça, et on en a assez d'entendre dans les médias de véhiculer cela, et le clergé, même moderniste, devrait réagir, mais non. Pourquoi ? Bah parce que c'est leur mentalité. La messe, c'est un rassemblement du peuple. C'est la première définition qui avait été donnée dans le missel de Paul VI. Qui a été modifié par la suite, certes, mais c'était quand même extrêmement significatif. Ne nous illusionnons pas sur le jugement qu'on doit avoir donc de son pontificat, qui a été marqué par un modernisme résolument progressiste. Il n'y a pas de modernisme bon. Soft. Son prédécesseur, Benoît XVI, Ratzinger, que les tradis ralliés portent au nu, et qu'il canonisait pratiquement l'appareil juste après sa mort, était aussi mauvais. Mauvais au niveau de la foi, de la morale, de la pratique, etc. Il était mauvais. Il était moderniste. Certains oublient la déclaration commune qu'il avait faite en tant que préfet pour la doctrine de la foi, déclaration commune avec les protestants sur la grâce. Forcément, on ne peut pas avoir une déclaration commune avec les protestants sur la grâce. C'est vraiment un point de rupture de la part des protestants sur la notion même de grâce. De même, des propos extrêmement ambigus et totalement modernistes sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour continuer sur Ratzinger, je n'avais pas parlé, il est mort quand même aussi relativement récemment. Aussi un nombre de déclarations importantes et d'actions, par exemple en disant qu'on partageait le doute avec les incroyants, avec les donc les athées. Donc Benoît XVI, Ratzinger, c'était un parfait moderniste, tel que Saint Pie X le définissait et le condamnait. Avec Bergoglio, effectivement, on a un niveau qui est supérieur, mais le niveau précédent, il reste extrêmement mauvais. Donc, le curseur va de plus en plus vers le rouge. C'est le cas de le dire aussi avec cette symbolique gauchiste qu'on retrouve chez Monsieur Bergoglio. Pour rappel, au niveau de la foi, bien sûr, cette déclaration commune avec l'imam 2019 sont des grandes choses. Si on examine tout le pontificat, on peut faire un recueil de déclarations et d'actes officiels contre la foi et les mœurs. Donc on va non seulement donc ces déclarations qui ne sont pas forcément dans le cadre des garanties de l'infaillibilité pontificale, nous le reconnaissons, mais aussi qui sont dans le cadre de l'infaillibilité pontificale, comme les canonisations des saints. Et nier l'infaillibilité du pape dans les canonisations des saints, comme le fait en pratique la fraternité Saint Pie X, est grave. C'est proche de l'hérésie, en fait. Proche de l'hérésie parce que l'infaillibilité du pape aujourd'hui dans la canonisation des saints est proche de la foi. C'est une doctrine commune parmi les théologiens et c'est une conséquence directe de la définition de l'infaillibilité du pape par le Concile Vatican I. J'en avais déjà parlé à l'époque de la entre guillemets canonisation de Jean-Paul II par justement Bergoglio. Preuve nécessairement que Monsieur Bergoglio n'était pas pape. Déclaration commune dans laquelle il a dit que le pluralisme et la diversité des religions sont une sage volonté divine. Je rappelle, juste ça, ça suffit pour poser le personnage. Cette parole est éminemment blasphématoire, du blasphème le plus grave, hein, le blasphème hérétique, hein, puisque dire cela, ça signifie que Dieu veut positivement toutes les religions. Donc ce que nous venons de lire, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu, ce que nous venons de lire de Saint Jean, cette foi qui vint le monde, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, avec ce triple témoignage du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Donc cette foi dans le mystère de la Sainte Trinité, cette foi dans l'incarnation du Verbe de Dieu, cette foi dans le mystère de la rédemption, cette foi dans le Saint-Esprit, eh bien tout ça est évidemment nié par une parole de ce genre. Du point de vue moral, c'est un peu plus récent, c'est la question de la bénédiction des couples homosexuels en tant que couple. Qu'on bénisse les personnes en tant que personnes, on peut le faire. On peut bénir des personnes qui ne sont pas baptisées, c'est des bénédictions qui sont un appel de Dieu et sur les personnes, une protection évidemment, attirer les grâces de Dieu. Donc dans ce cas-là, les grâces de conversion, bien entendu. Mais bénir un couple en tant que couple, c'est un autre niveau. C'est bénir ce qu'il y a derrière ce couple, ce qui unit ce couple. Et ce qui unit ce couple est non seulement contre la morale catholique, mais contre la morale tout court. La morale naturelle. Par conséquent, évidemment, c'était un acte extrêmement grave et ils ont pataugé après pour essayer de dire que c'est pas contre la foi, etc. Toujours la même chose. On dit des choses qui sont positivement, clairement contre la foi et la morale, comme lors de Vatican II, et après on essaie de dire oui, mais c'est pas contre la foi et la morale. Si vous dites une chose, c'est cette chose, c'est formulé d'une telle manière, et ça implique des idées derrière. Ces idées sont clairement exprimées, ces idées sont clairement contre la foi catholique. Donc, on a beau dire après, ah ben c'était pas contre la foi catholique, non, c'est pas possible. Et là encore, on retombe dans quoi ? Eh bien, dans le subjectivisme moderniste. Donc, bien entendu, à partir de tous ces éléments, de tout ce pontificat, eh ben, le jugement de Dieu, forcément, ça n'a pas dû être facile. Et même en cas de conversion in extremis, eh bien, le purgatoire, ce n'est pas de la rigolade. Parce que si on n'a pas pu réparer sur terre, et il n'a pas pu réparer sur terre en tant que personne publique tout le mal qu'il a fait, eh bien, il faut qu'il le répare ailleurs. Donc, une fois de plus, nous pouvons prier pour le salut de son âme, et si par malheur il est en enfer, eh bien, de toute façon, ses prières serviront à d'autres âmes. C'est aussi ce que nous dit la pratique de la Sainte Église. Aujourd'hui, donc, nous sommes cédévacantistes. Nous sommes nonunacum, comme nous l'étions auparavant. Est-ce que nous sommes tous nonunacum ? Non. Non. Les messes de la Fraternité Saint-Pilis ou autres sont unacum. Sont unacum celui qu'ils reconnaissent comme évêque du lieu, auquel ils n'obéissent jamais, qu'ils insultent éventuellement, caricature ou autre. Ne l'oublions pas, ce sont des comportements qui, dans l'Église catholique, ne sont pas admissibles. Donc, ces messes, même si on n'a pas de pape aujourd'hui, ni matérialitaire, ni formalitaire, sont toujours unacum, des personnes qui sont mauvaises et qui ne sont certainement pas, qu'on ne peut pas considérer comme autorité de l'Église. Donc, avec lesquelles on ne peut pas nommer dans le canon sans entacher le canon d'un sacrilège. Par conséquent, aujourd'hui encore, eh bien, on ne va pas à la messe, à la Fraternité Saint-Pilis ou autre pour ces raisons, comme on ne va pas à la messe, eh bien, chez les schismatiques orientaux. Notons que le cas, bien sûr, n'est pas strictement identique. Là encore, il y a des degrés dans la malice, effectivement, mais si on s'habitue à mettre le curseur là, eh bien, on va avoir ou bien là, donc dans la descente au niveau des exigences de la foi, si on le baisse, eh bien, jusqu'où est-ce qu'on va le baisser ? Jusqu'à basculer dans le relativisme moderniste. Donc, notre position ne change pas. La messe était nonunacum, elle l'est toujours, nonunacum. Donc Bergoglio, nonunacum, l'archevêque entre guillemets de Besançon, ça ne change pas. Demain, quand sera-t-il ? Là encore, prière et pas d'illusion, comme pour le salut de l'âme de Monsieur Bergoglio. Prière parce que c'est un devoir de catholique. Nous sommes catholiques, apostoliques romains. Nous ne sommes pas des chrétiens isolés. Ça n'existe pas. L'Église, c'est une société. C'est une société qui, normalement, a un chef visible, le pape. Mais son chef, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des périodes où il n'y a pas de chef visible. ce sont les périodes de vacances. Ces périodes de vacances, hein, vacances du siège, ça veut dire que sur le siège, ben, le siège n'est occupé par personne. Durant ces périodes de vacances qui parfois ont duré longtemps dans l'Église. Donc, la fraternité Saint-Pudice avec leurs faux arguments. Oui, mais on ne peut pas avoir de pape, ne pas avoir de pape pendant 60, 70 ans, c'est pas possible. Oui, alors expliquez-moi pourquoi c'est pas possible. Jamais il n'y a d'argument derrière. Jamais. D'argument sérieux, solide, théologique, fondé. Que ce soit sur la théologie positive, à savoir l'étude des auteurs, ou la théologie spéculative, c'est-à-dire le raisonnement théologique fondé à partir de la foi. Il n'y a pas d'argument. D'autant que contra factum non fit argumentum. Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Et comme le répond saint Thomas dans beaucoup de cas, il suffit de prouver la chose pour prouver que c'est possible. Puisque nous pouvons prouver par la foi catholique que Bergoglio n'était pas pape et qu'il n'y en a pas d'autre qui pouvait légitimement prétendre à l'être. Idem pour son prédécesseur, Ratzinger, idem pour son prédécesseur Wojtyla, idem pour son prédécesseur, Jean-Paul Ier n'a pas vécu longtemps, idem pour son prédécesseur Paul VI, Montini, on peut prouver de façon définitive, par la foi, qu'ils ne sont pas assistés par le Saint-Esprit et donc qu'ils n'ont pas l'autorité pontificale qu'on appelle donc papauté formalitaire ou formelle. On peut le prouver, c'est tout. Donc, de facto, on prouve qu'il est possible que on n'ait pas de facto en acte un pape pendant 60, 70 ans. C'est tout. On le prouve parce que c'est le cas. Ça, c'est un raisonnement théologique. Ce sont pas les fadaises qu'on vous sert dans les bulletins de la Fraternité Saint-Pudice où ils se forcent chaque mois à produire du contenu qui n'apporte souvent rien aux fidèles. D'une manière solide, hein, pas une nourriture de bébé, mais une nourriture solide. Donc, qu'en est-il par rapport à ça? Donc, prier pour avoir un véritable successeur de Pierre, c'est possible, mais sans illusion. Possible sans illusion parce que effectivement humainement il y a peu de fondement. Et je vous rappelle que Dieu respecte les causes secondes. Parfois il les force avec des conversions extraordinaires, mais les interventions divines extraordinaires de cette manière pour influencer le cours de l'histoire d'une manière définitive sont rares et pas tellement conformes donc à l'action habituelle de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de matière adaptée, donc s'il n'y a pas les conditions humaines aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi Dieu nous enverrait un véritable successeur de Pierre, et pourtant on doit le lui demander parce que c'est notre devoir, et pourtant nous devons nous disposer, pas en gardant l'esprit d'Église, à obéir à un véritable successeur de Pierre, déjà en obéissant à ce qu'ont posé les derniers successeurs de Pierre avant Vatican II. C'est quand même une condition sine qua non de l'esprit d'Église. Donc nous devons prier pour cela et nous ne devons pas verser dans les faux espoirs et les illusions qui vont être véhiculées notamment par les milieux modernistes conservateurs. Dans ces milieux modernistes conservateurs, j'inclus aujourd'hui tout ce qu'on appelle les ralliés. Fraternité Saint-Pierre, Institut du Bon Pasteur, Christ Roi, etc. sont des modernistes. Ils le sont. Au niveau de la doctrine, de l'enseignement, de la manière de penser, de la manière même de s'exprimer. Parce que je lis aussi des bulletins de ces personnes. Aujourd'hui, ils sont devenus modernistes. Peut-être ils sont en bas du curseur, mais ils le sont. Donc ils sont hors du cadre de la foi catholique. Ça ne va pas manquer, bien sûr, c'est la curiosité humaine, et peut-être que vous êtes tous déjà penchés sur les papabilis, hein, donc ces personnes qui sont papables, pour traduire littéralement en français. Bon, ça vous intéresse, mais bon, vous feriez mieux de prier, à mon avis. Ce serait plus utile. Certains vont nourrir de faux espoirs. Ah, le cardinal Intel, oui, il est plutôt bien. Il est pour la morale. Il est pour, contrairement à Bergoglio, ah, il est pour la messe traditionnelle, contrairement à Bergoglio. Mais c'est ça la foi catholique, ça se limite à la messe traditionnelle et à la morale qui est naturelle. C'est pas la foi catholique, ça. C'est une espèce de vision d'une église moderniste, high church, quoi, qui se tient mieux, qui n'aime pas les messes olé olé, ou les célébrations, devrais-je dire plutôt, qui n'aime pas ces écarts par rapport à la morale, je le répète, naturelle. C'est pas ça l'église catholique. Bien sûr, on va dire, ah ben, on va se satisfaire de quelqu'un qui est moins pire. Non, c'est pas parce qu'il est moins pire qu'il sera qu'il ne sera plus moderniste. C'est pour ça que a priori, peu importe celui qui est élu, sauf intervention divine extraordinaire, peu importe celui qui est élu, a priori. Le jour même de son élection, nous continuons à être nonunakum. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui cette continuité. Et donc, quelqu'un qui est élu devra montrer dès son premier acte, son premier discours, qu'il rompt, non pas avec le modernisme progressiste, de Monsieur Bergoglio en rappelant une vague moralité naturelle et « Oh oui, j'aime mieux les messes en latin, etc. » traditionnelles. Non ! En condamnant fermement Vatican II et toutes ces erreurs qui sont véhiculées depuis toutes ces années. Ce n'est pas rompre avec Monsieur Bergoglio, c'est rompre avec Vatican II et toutes ces idées modernistes qui ont été inscrites comme une nouvelle charte par Paul VI, et malheureusement donc une charte qui évidemment n'est pas catholique. Donc s'il n'y a pas un acte clair de cet ordre, il n'y a aucune raison pour nous de changer. Et je dis malheureusement, parce que moi je ne demande que ça, d'avoir un véritable pape, un véritable évêque. Je demande que ça, de pouvoir être paisiblement, en toute obéissance, à des autorités légitimes de l'Église. Certains se satisfont de cette situation. Ça leur permet de faire ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît. Ce n'est pas notre cas. Cette situation ne nous plaît pas et ce que nous faisons Nous ne le faisons pas pour faire ce qui nous plaît. Nous le faisons parce que nous estimons que c'est notre devoir en tant que prêtre, en tant que fidèle pour vous, dans cette situation actuelle de l'Église, de perpétuer la foi catholique, de la vivre, de la transmettre. Et au quotidien, c'est toujours difficile. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, ce n'est pas une voie de facilité, contrairement à ce que certains aiment à penser. C'est au contraire la voie difficile, la voie étroite pour conserver la foi, pour conserver la morale, pour rester catholique. Donc en conclusion, j'ai parlé un peu longtemps, évidemment, mais ça permet de bien débroussailler le terrain, j'espère, dans vos esprits, à vous donner une attitude qui soit claire, qui permette aussi de rester paisible, stable dans la situation actuelle, d'une manière plus personnelle, puisque il y a 15 jours, donc lors des rameaux, je vous ai rappelé ce que peut-être certains ne connaissaient pas, la devise du prieuré « Regnavit aligno Deus », puisque les ecclésiastiques peuvent, et finalement aussi n'importe qui, peut avoir une devise personnelle, et c'est important. Eh bien, je vous exprimais simplement mes devises personnelles. La première, c'est « coram ipso », face à lui, c'est-à-dire Dieu, qui est tiré du cantique de Saint Zacharie, donc le père de Saint Jean-Baptiste, le Benedictus. « In sanctitate et justitia coram ipso omnibus diebus nostris ». Dans la sainteté et la justice, face à lui tous les jours de notre vie. Dans la situation actuelle, eh bien, rien ne change pour le chrétien. Il doit être dans la sainteté et la justice face à Dieu, donc en considérant que Dieu nous voit du haut du ciel, comme le dit saint Benoît, face à Dieu tous les jours de sa vie. Donc dans toutes les circonstances, il doit veiller à agir en chrétien, contrairement à ceux qui se réjouissent de cette mort, qui en rigolent, etc. C'est cette première responsabilité. In sanctitate et justitia coram ipso omnibus diebus nostris. Dans la sainteté et la justice, face à lui tous les jours de notre vie. Bien sûr, je vais vous répéter ce que j'ai dit le jeudi saint, la devise de Don Delatt, Donec veniet, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il vienne notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde pour juger les vivants et les morts. Quand nous ne le savons pas et quand nous n'avons pas à le savoir, à partir du moment où nous nous maintenons dans la sainteté et la justice face à lui tous les jours de notre vie, le jour du jugement peut être aujourd'hui, demain ou dans 200 ans, nous serons toujours prêts. Deuxième devise, vous savez, au-dessus des armes, on peut mettre un cri de guerre, vous connaissez tous celui de la France, n'est-ce pas ? Mon joie Saint-Denis Donc on peut aussi mettre une devise en forme de cri de guerre, comme sur les armes du prieuré, on a mis les paroles des saints anges, « Venite in Bethléem », en invitation d'adoration envers notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et personnellement, ce sont ces paroles « Super muros tuos », sur tes murs. Comme mon joie Saint-Denis, prie en soi, ça n'a aucun sens. Il faut avoir toute l'explication. C'est une parole tirée d'Isaïe. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai établi des gardes, des gardiens. tout le jour et toute la nuit, il ne cesse de louer votre nom. » Là aussi, nous devons, chacun d'entre nous, nous considérer comme des gardiens. Humblement, simplement, mais se considérer comme des gardiens, c'est ce que je viens de vous dire. À savoir, c'est une responsabilité, c'est un devoir, ce n'est pas une facilité de rester debout sur les murs de l'Église, sur les murs de la foi, sur les murs de la morale catholique, sur les murs de la très sainte liturgie telle que l'a voulu l'Église et les papes, sur les murs de l'obéissance à l'Église. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Et c'est comme ça qu'on loue le nom du Seigneur. Parce que Jérusalem, bien sûr, sur tes murs, Jérusalem, c'est la représentation, la symbolique, l'image déjà de l'Église catholique, apostolique et romaine. Donc chacun d'entre nous, nous devons considérer à la fois cette responsabilité personnelle de marcher chaque jour de notre vie dans la sainteté et la justice. Et chaque jour de notre vie, nous avons cette responsabilité sociale d'être les gardiens de la cité de Dieu. Chacun à son poste, chacun selon son grade dans l'Église. Donc l'image des gardes est merveilleuse. L'image de la muraille est merveilleuse. Parce que nous sommes le dernier rempart voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons cette responsabilité de conserver précieusement le dépôt de la très sainte foi. Nous avons cette responsabilité de conserver précieusement la sainte morale, non seulement basiquement naturelle, mais la morale élevée, celle de l'Évangile, celle de la Sainte Église catholique, qui invite non pas à la facilité, mais qui invite au renoncement à soi-même, qui invite non pas à la mollesse, qui invite non pas à laisser libre cours à toutes ces passions désordonnées, mais qui invite à s'élever vers le ciel. Donc, gardien de cette morale, gardien aussi de cet esprit d'Église, de garder ce profond esprit d'Église attaché à Rome, attaché à la papauté, et donc au dernier pape avant Vatican II, à se défendre de tout esprit schismatique, de tout esprit gallican, de toutes les manières possibles. Ainsi, effectivement, nous serons des dignes adorateurs, laudateurs de Dieu. Voilà, mes bien chers frères, les réflexions en ces moments qui restent des moments graves, solennels, particuliers de l'histoire, et c'est une occasion pour nous de nous rappeler nos devoirs personnels et nos devoirs sociaux au niveau de l'Église. Et donc, profitons-en, profitons de ces instants, finalement, que Dieu nous donne pour nous rappeler la gravité de nos devoirs et l'importance de notre place personnelle dans l'histoire. Aussi petits soyons-nous, tout le monde est important à partir du moment où tout le monde veille, où tout le monde fait son devoir, où tout le monde se met sur les murs pour garder la foi, la morale, la discipline ecclésiastique et la dévotion au Saint-Siège, donc de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, hors de laquelle il n'y a point de salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.